Une heure sur Mars. Une émission thématique tous les troisièmes vendredis du mois de 16h à 17h.
Sur Radio Galère. Vous le savez probablement, les Jeux Olympiques de 2024 seront accueillis par la France, en particulier par Paris. Mais pas seulement. Plusieurs villes hôtes ont été décidées, parmi elles Marseille. Ainsi, vous pourrez vous attendre à croiser une belle ribambelle de touristes venus assister aux épreuves de foot et de voile à Marseille, du 28 juillet au 8 août. À Marseille, plusieurs manifestations ont eu lieu pour s'opposer à ces JO. Le 8 mai 2024, pour la plus récente, pour s'opposer au défilé du relais de la flamme olympique. Ça a été l'occasion de rencontrer différentes associations qui s'opposaient aux JO de Paris pour une multitude de raisons. Et oui, la lutte anti-JO est plurielle. S'y rencontrent des associations pour la prévention des dérives techno-sécuritaires, c'est le cas de Technopolis, pour la cause palestinienne, c'est le cas notamment de l'association Boycott, Désinvestissement et Sanctions, pour la cause environnementale, entre autres nos JO, qui œuvrent en ce moment en particulier contre les JO de 2030 dans les Alpes. Nous aurons d'ailleurs l'occasion tout à l'heure d'interviewer José Pulqui, un activiste de nos JO 2030. Sans oublier les groupes tels que XR, les Soulèvements de la Terre et bien d'autres encore. À Paris, on retrouve également le collectif Revers de la Médaille qui regroupe une quatre-vingtaine d'assos et alerte sur les opérations de nettoyage social en cours à Paris. On s'en doute. Les raisons de se plaindre des JO ne manquent pas. On va en énumérer quelques-unes.
D'une part, ces JO participent à une précarisation de la population, finalement dans la lignée de nos politiques publiques actuelles. Et d'un autre côté, ils sont démesurés d'un point de vue environnemental, mais aussi sécuritaire, comme on va le voir ensuite. Donc, d'abord, le fait qu'ils aient pour effet de renforcer à l'excès les situations déjà précaires des Français, au profit évidemment des plus riches. Ça passe déjà par des opérations de nettoyage social. Là, c'est surtout le collectif Revers de la Médaille qui alerte sur ces pratiques, qui consistent à délocaliser des personnes à la rue pour les éloigner des zones de tourisme causées par le JO. Ça passe par exemple par la délocalisation des banques alimentaires, donc évidemment les SDF sont contraints de se déplacer pour pouvoir manger, par la pose de mobilier anti-SDF dans les endroits clés où ceux-ci pouvaient dormir, mais aussi par des contrôles policiers répétés visant précisément à demander aux personnes à la rue de partir, etc., etc., avec bien sûr toute la douceur et tendresse dont nous savons nos agents capables. Bien souvent, les personnes sont contraintes de partir sans billet de retour dans une nouvelle ville qu'elles ne connaissent pas. Et bien évidemment, avec très peu de propositions d'hébergement derrière ces opérations, ou bien des propositions d'hébergement temporaire. Il est probablement inutile de le préciser, mais délocaliser des personnes qui vivent et ont construit leur repère à un endroit représente une violence très forte à leur égard et une dégradation considérable de leur niveau de vie et de leur perspective d'avenir. Certaines personnes à la rue ont en effet une activité, qu'elles soient rémunérées ou non, que la délocalisation les force à perdre. Les forcer à partir de leur lieu d'installation, où elles vivent parfois depuis des années, c'est une précarisation de leur situation déjà bien trop précaire. Le collectif Revers de la Médaille compte à 12 500 le nombre de personnes expulsées entre avril 2023 et mai 2024. On vous encourage à aller lire leur rapport sur le traitement des personnes à la rue dans le cadre de la préparation des JO. Il est disponible directement sur leur site internet et on y voit toutes sortes d'autres chiffres autant alarmants. D'un autre côté, on a une précarisation de la population par le travail des personnes sans papier. Engager des personnes sans papier, c'est en principe interdit, non pas tant pour protéger les intérêts des personnes en question, mais surtout parce que le Code du travail considère que cela représente une prise de risque pour les employeurs. Cependant, certains employeurs y voient évidemment un intérêt lorsque cela permet d'embaucher une personne au black, cela permet de la payer moins ou de ne pas payer les taxes qui financent les droits sociaux des travailleuses. Tout en s'assurant de plus que l'employé sans papier va gentiment rester discret, de peur de perdre le peu de revenus possible dans une telle situation. En un mot, si vous cherchez à exploiter quelqu'un au travail, choisissez une personne sans papier. En particulier, dans les milieux du BTP, il n'est pas rare que des personnes sans papier soient employées. Dans le cas des JO, si le maître d'œuvre est bien connu, en l'occurrence c'est Solideo, les travaux ont été opérés dans un jeu de sous-traitance, de telle sorte qu'il soit au final très compliqué de cerner qui est responsable de quoi. Si Solideo s'opposait à l'emploi de personnes sans papier, cela signifie simplement pour le sous-traitant qu'il ne peut pas les embaucher que discrètement, sans prévenir. et donc en dissimulant le plus possible l'employé sans papier qui lui surtout ne doit rien dire à personne de sa situation et des conditions déplorables dans lesquelles on le fait travailler. À titre d'exemple, les personnes concernées parlent d'un rythme de travail dépassant de très loin le taux légal, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, l'impossibilité de poser des congés, sachant que ces congés peuvent s'avérer nécessaires pour des raisons de santé, et dans de tels cas, ce ne sera évidemment pas remboursé, ce ne sera pas couvert par l'employeur. Des raisons de santé qui peuvent se présenter très rapidement dans des métiers aussi difficiles physiquement. Finalement, lorsque Solideo s'aperçoit de la quantité de travailleurs sans papier, 130 environ, elle multiplie les inspections de travail, et les travailleurs sans papier inspectés sont simplement congédiés sans plus de formalité. Libre à eux d'attaquer leur employeur en justice avec, bien sûr, toutes les difficultés que ça peut représenter lorsqu'on n'a pas de papier en France. Il s'agit bien ici de profiter de la situation précaire de l'employé pour faire du profit, et lorsque cela n'est plus possible, de s'en désintéresser et d'abandonner l'employé à une situation encore plus précaire dans l'ombre du droit du travail et particulièrement dans l'ombre du droit de la travailleuse. En parallèle, les JO, c'est aussi la possibilité pour les plus aisés de s'aiséifier d'autant plus. Les JO, c'est un événement mondial qui dure quelques jours en été. Donc, évidemment, c'est un pic de l'allocation temporaire à Paris, Marseille et toutes les autres villes hôtes. Et donc, c'est l'occasion pour les propriétaires de louer leurs biens à des prix exorbitants et de se payer à eux-mêmes des grosses vacances non méritées. Les propriétaires se voient déjà conseillés de multiplier par 2, 3 ou 4 le loyer qu'ils demandent habituellement pour un même logement. Je vous invite à simplement taper « location JO » sur Internet et vous verrez tous les conseils qu'on donne aux propriétaires en termes de location temporaire. Certes, il est possible pour les locataires de sous-louer leur logement, mais attention, il ne faudrait pas non plus que les plus pauvres fassent du profit sur le dos des propriétaires. Il n'est juridiquement pas possible de dépasser le prix du loyer, et la sous-location est soumise à l'accord du propriétaire. Seulement de quoi rembourser le prix du loyer pendant des jours de vacances, donc. Ainsi, l'application Gens de Confiance constate une augmentation des logements mis en location sur les périodes des JO, mais essentiellement par des personnes qui, d'ordinaire, ont déjà les moyens de se payer des vacances et en profitent simplement pour y mettre plus de budget. En un mot, on a des bourgeois qui partent en vacances tous les étés, et cette fois ils y vont encore, mais encore mieux, parce qu'ils ont la possibilité de louer leur propre logement beaucoup plus cher que d'habitude. Mais pour les personnes qui ne partent jamais en vacances, et bah, ça continuera comme ça. Les JO vont également causer une gentrification forte dans les quartiers concernés, notamment ceux de Seine-Saint-Denis. Si le village des athlètes deviendra ensuite des immeubles, il a été construit pour, c'est vrai que c'est assez chouette, ces immeubles ne sont pas prévus pour être des logements sociaux, de telle sorte qu'ils vont augmenter le prix des loyers, ce qui va causer des conséquences dramatiques sur les habitants de Seine-Saint-Denis. Ce problème concerne également Porte-de-la-Chapelle, toujours à Paris, mais aussi bien d'autres endroits où de nouveaux logements seront construits. Dans ce même contexte, les étudiants de Paris se voient mis à la porte de leur chambre de crousse, réquisitionnée pour la durée des JO, voire davantage, puisque les premiers déménagements ont eu lieu en avril. Et à côté de cette précarisation à l'extrême, les JO représentent également une démesure, donc d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue environnemental. Pour ce qui est de la démesure sécuritaire, c'est l'association La Quadrature du Net et ses groupes locaux Technopolis qui alertent sur l'usage légalisé de la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, et des atteintes aux droits fondamentaux que ça représente. Les technologies VSA ont déjà été utilisées auparavant, mais c'était encore illégal, et donc c'était possible pour les associations de le combattre. En gros, la VSA, c'est une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle qui va permettre de filmer des scènes dans la rue et d'alerter directement dès qu'un comportement suspect est reconnu. Sauf que les comportements suspects en question sont en fait des comportements tout à fait banals, qui permettent simplement de prévenir les agents de police. Par exemple, quand quelqu'un fait un demi-tour un peu brutal dans la rue. Donc c'était illégal jusqu'ici, mais les JO donnent un prétexte à l'instauration d'un cadre juridique pour ces technologies liberticides, cadre juridique qui a déjà été posé par une loi de 2023. Le but est la surveillance généralisée et la pénalisation de comportements qui sont pourtant banals. L'émission Libre Débat a déjà eu l'occasion de parler de ce sujet avec le groupe Technopolis de Marseille, donc on vous laisse écouter ça directement sur le site de Radio Galère. Donc dans l'émission Libre Débat, c'est une émission du 8 mai 2024. D'un autre côté, les JO représentent aussi une démesure d'un point de vue environnemental. Sans doute, un tel événement mondial est responsable d'une quantité d'émissions de gaz à effet de serre spectaculaire, entre les déplacements des touristes qui viendront voir les Jeux, les travaux exigés par les Jeux, etc. Sur ce sujet, les JO de Paris ont certes fait des efforts, mais qui restent largement insuffisants au regard de l'urgence écologique actuelle. Là où Paris s'était vanté à l'origine de produire les premiers JO à impact carbone positif, 1,58 million de tonnes de CO2 sont aujourd'hui prévues. On peut donc craindre encore davantage. D'autant plus que la minimisation de l'impact carbone des JO repose en grande partie sur des mécanismes de compensation. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on a diminué le coût écologique des JO, mais que les organisateurs ont soulagé leur propre conscience en aidant des organismes de diffusion des gaz à effet de serre à côté. On a pollué autant, mais on paye des entreprises pour un peu dépolluer à côté. Mais c'est des entreprises, on ne sait pas encore comment ça va se passer. On peut encore mentionner le choix des sponsors, qui n'ont pas du tout été recrutés pour leur exemplarité écologique. Par exemple, l'association marseillaise Clean My Calanque a refusé de porter la flamme olympique en apprenant que Coca était un sponsor officiel du relais de la flamme. Ils disent qu'ils en ont marre de ramasser leurs déchets sur les côtes et que ça semblerait un peu contradictoire avec leurs valeurs de cautionner les JO s'ils permettent ça. Cette même association mentionne aussi la production abondante de goodies qui finiront inévitablement en déchets, éventuellement marins, que l'on retrouvera sur les côtes ou dans les estomacs des tortues. Ou encore, on peut mentionner la dégradation des barrières de coraux à Tahiti lors de l'installation d'une infrastructure qui a été jugée nécessaire pour l'épreuve de surf de JO, une grosse infrastructure en métal qui remplace celle en bois, à la désapprobation des associations locales. Lors de l'installation, cette infrastructure a détérioré une partie des coraux, ce qui déjà est alarmant d'un point de vue environnemental, mais qui représente également un danger parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle dégrade aussi une partie des touristes présents lors de l'épreuve de surf. Malgré le danger que représente cette infrastructure, il a été estimé qu'il était trop cher de relocaliser l'épreuve de surf ailleurs. Et pourtant, il faudrait être fier de ces jeux. Difficile quand on sait tout ce qu'ils coûtent aux générations futures, aux personnes précaires d'aujourd'hui. Et surtout lorsque l'on voit le désaccord profond entre les valeurs mises en avant, inclusivité, excellence, etc., et le résultat de la préparation de ces JO, précarisation, irresponsabilité au regard des réels enjeux actuels. Ajoutez à cela des choix politiques très embarrassants, comme la candidature acceptée des athlètes israéliens et leur participation lors de la cérémonie d'ouverture. Ce qui est très compliqué à comprendre quand on sait que, pour ce qui est des athlètes russes, ils ont été obligés, et probablement à raison de la guerre en Ukraine, ce qui n'a pas du tout été demandé aux athlètes israéliens. Difficile de comprendre un traitement aussi différencié de celui appliqué aux athlètes russes, qui ont été obligés, à raison probablement, de concourir sous bannière neutre en raison de la guerre en Ukraine. Tandis que les athlètes israéliens, on ne leur a jamais demandé quelque chose de tel, alors qu'il y a actuellement un génocide en cours. En fait, s'il faut être honnête, ces JO si terribles ne le sont pas tant. C'est-à-dire que, dans l'histoire des JO mondiaux, pollution, nettoyage social, etc. ont toujours été au rendez-vous. Les JO de Paris ont probablement fait un effort, et c'est sûr qu'on aurait voulu qu'ils soient exemplaires. Mais peut-on sincèrement croire en la possibilité pour des Jeux mondiaux pris en grippe dans des nœuds de géopolitique qui nous dépassent, qui puent l'argent des multinationales plus que la sueur des athlètes, de faire preuve de l'excellence qu'ils prétendent défendre? Des événements comme cela ne sont probablement plus réalisables aujourd'hui, écologiquement parlant, et ne l'ont jamais été, socialement parlant. Nous parlerons de tout cela avec José Pluki du collectif No JO 2030, après une pause musicale. On vous laisse avec Chaka Ponk.
Je sors à peine de la crise de nos quarantaines. Et je me traîne. Les autres sont repassés sur le même thème. Mais je suis pas la même. Même si tout le monde danse en belle assemblée et que le beat cogne. Même si quelques-uns pensent à se rassembler et que les flics cognent. Everybody dance. Tout le monde danse quand ces chants-là claquent des doigts. Mais moi je danse pas. Tu dis que l'amour existe que le système. Mais je suis Ken. Tout le monde s'écrase, tout le monde rejoue la même scène. Mais ça ne vaut pas la peine. Même si tout le monde danse pour ne pas penser. On ne pense qu'à les pensées. Même quand tous ces gosses pensent à tout balancer. C'est du mineur en majorité. Everybody dance. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent des doigts. mais moi je danse pas. Je danse pas cette heure, je danse pas les fausses guerres. Je danse pas quand on dit que tout est son contraire. Je danse pas quand ces chants-là claquent des doigts, les aiguilles de fer dans des clés de bras. Je danse pas, danse pas pour le beat qui s'agite dans le ministère Big Pharma. Je danse pas quand la vie s'enterre sous les carrières, leur message d'amour pour la terre. Je danse pas les badass qui défoncent, qui t'effacent, qui t'encrassent l'art, la terre et les artères. En fait, dans les lois, votées au pas de loi, dans mes orgies romaines, Paris 7ème. Je danse pas et je prends pas la pause pour qu'on nous fourbe des dos sous hypnose médiatique. Les trois singes en laisse pour une presse en spire. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Je danse pas quand ces gens-là claquent des doigts. Je pense pas comme ces tâches qui croient que pour que rien ne s'effondre, il suffit de s'en foutre. Ce cri de la vie que personne n'écoute. Je danse pas pour les masses médias, pour les putaclics et les politiques qui s'échangent des gosses par millions de minois. Mais je t'ai asservi pour les putes à lobby sur Insta. Je danse pas sur la peur, les couvains, les muselières, aux infirmières, les docteurs bannis des médias pour laisser les antennes aux promos de la haine d'un faux candidat. Je danse pas pour ces mioches en pouvoir, mais sur le fourré au désert. Mais moi je danse pas. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent des doigts. Mais moi je danse pas. Les familles suffisent de ne pas vous faire et se faire le fond de la terre. Comme il suffit de ne pas s'en faire. Comme il suffit de ne pas s'en faire. On va s'en faire et se faire notre honneur. La terre, il suffit de ne pas s'en faire. Il suffit de ne pas.
Nous sommes avec José Plucky du collectif NoJO 2030. Bonjour José.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter le collectif NoJO ?
Alors, le collectif NoJO a été créé il y a maintenant un an et demi. À l'origine, c'était la candidature de la région PACA, la région sud aux Jeux Olympiques 2034 d'hiver. Et vu que la candidature a muté, on s'est... Nous aussi, on a muté sur un collectif au début qui était centré sur la région PACA, surtout sur les Hautes-Alpes. C'était le département qui devait accueillir dans ce projet-là de Jeux Olympiques. Et ça s'est muté en collectif sur toutes les Alpes. Donc c'est un collectif assez géographiquement éloigné. Donc il y a une antenne en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère, dans les Hautes-Alpes et dans le 06. Si j'ai oublié personne, voilà, c'est tout le voilà, donc c'est un regroupement de collectifs qui se coordonnent pour lutter contre cette candidature qui nous semble vraiment marquée sous le sceau de l'absurdité et du déni. Voilà.
Alors justement, quelles sont les problématiques que posent les JO 2030 dans les Alpes ?
Alors, ça pose en fait une grosse problématique qui est complètement oubliée, qui n'est pas discutée, qui s'appelle la fin de la neige, tout simplement. Voilà, organiser les JO d'hiver quand il n'y a plus d'hiver, ça pose quand même, ça peut poser ceci. On voit bien, l'hiver dernier, on a eu toutes les stations de moins de 2000 mètres qui ont galéré avec la neige. Les grosses stations qui, elles, en ont profité, paradoxalement, parce que les skieurs des petites vont skier dans les grosses. Mais ça pose ce problème-là. Et ça pose le deuxième problème qui est très important dans les Alpes, c'est la gentrification, c'est-à-dire la gentrification du fait que il y a de plus en plus de gens riches qui viennent habiter ici parce qu'ils trouvent que c'est frais, que c'est agréable, que c'est beau, enfin, etc., qu'il y a de l'eau. Mais vu que les Alpes, il n'y a pas beaucoup de zones habitables, les loyers explosent, donc c'est très difficile de louer. Les prix de l'immobilier explosent, c'est les seuls endroits où le prix qui n'a quasiment pas baissé de l'immobilier monte en continu. Et toute la classe moyenne, même la classe moyenne, les pauvres et la classe moyenne, n'arrivent pas à se loger et sont obligés soit de partir, soit chaque loyer est devenu un braquage. Et avec des salaires faibles, c'est compliqué. En gagnant 1200 euros avec 6 mois d'année de chômage et de chômage en plus qui a été renié par Macron, de payer des loyers de 600-700 euros, voire 800 pour un T2. Donc ça rend la vie impossible aux gens. Et c'est aussi un des slogans qu'on avait sorti, c'était que les Alpes ne peuvent pas accueillir toute la richesse du monde. On ne peut pas accueillir tous les gens riches qui viennent acheter des maisons secondaires et les laisser vides 10 à 12 mois par an. Pour que derrière les habitants permanents se retrouvent dans le meilleur des cas en camping. Il y a des campings entiers qui sont transformés en habitat permanent, il y a des bungalows. Donc ces deux constats qui existeraient, je veux dire, s'il y avait les JO, ça changerait pas. Le fait qu'il n'y ait pas de JO, il y aurait encore ces problèmes. Mais là, ça les exacerbère. C'est un peu comme si vous proposez la fête de la bière à un alcoolique. C'est ça les JO. C'est aussi notre critique. C'est de l'argent public qui est investi pour le prestige, pour des choses qui sont quand même relativement inutiles. Il y a un projet de doublé national de passer à deux voies. Ça a coûté des centaines de millions. Il n'y a pas d'intérêt, je n'ai pas changé la vie de la population. Le problème de la population, c'est quand même le manque de travail à cause de la fin de la neige, le manque de logement, le fait qu'on n'a plus de dentiste. Avoir des deux voies, c'est vraiment essayer de rendre l'accès facile pour les gens d'une maison secondaire et puis augmenter encore la spéculation immobilière. Mais ça, venant de Muselier et de Wauquiez, ils ont une vision qui est au service d'une autre catégorie de la population, c'est-à-dire les plus riches.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, de continuer d'organiser des compétitions sportives mondiales qui seraient éventuellement... est-ce qu'il est possible d'avoir des compétitions sportives qui soient respectueuses de l'environnement, des personnes et des enjeux locaux dont vous parlez? Donc des compétitions sportives qui soient réalistes et pérennes et respectueuses.
C'est un peu l'histoire je vais être un peu vulgaire, j'ai envie de trop l'être, si les JO deviennent respectueux de l'environnement, c'est plus les JO, quoi. C'est autre chose. Soit on organise des compétitions sans spectateurs, sans refaire des infrastructures, sans se créer un événement, c'est plus les JO. De toute façon, je pense que nous, on essaie de pas parler de réchauffement climatique, mais plutôt de crash climatique. Donc c'est un crash, parce que les Alpes, l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que la France. Donc on est plutôt à un rythme quatre fois plus important ici. C'est normal, ça s'explique au niveau du climat. Ça va très vite, c'est un crash, il y a des inondations partout, des routes qui s'effondrent, des éboulements, l'effondrement, il est concret, c'est un effondrement. On l'a vu, 80 millions d'euros de dégâts quand il y a un mètre de neige qui part en un jour tellement il y a de la pluie, la Bérarde qui s'est fait raser parce qu'il y a un lac glaciaire qui s'est goulé. Donc tout ça pour dire que non, les JO, il faut aussi renoncer à dépenser 5 milliards pour le prestige et mettre cet argent-là au service de la population et pas au service du prestige. Mais bon, je veux dire, les Wauquiez, Muselier, Macron, eux, ce qu'ils aiment, c'est avoir leur... c'est le rêve de leur vie, comme ils l'ont dit, hein, c'est d'avoir toutes les télés du monde qui les regardent. Donc ça, c'est... et c'est au service, on va dire, de FH, de Vinci, de tous les promoteurs immobiliers qui vont faire beaucoup d'argent avec en construisant des choses mal faites. Donc c'est pas à dire... nous, on n'y croit pas du tout à ce que les JO puissent être durables, écolo, le cercle carré, ça n'existe pas. C'est autre chose. Peut-être qu'ils peuvent. Nous, on n'a rien contre le sport, mais le sport doit être populaire. Et on sait très bien qu'on voit aux JO de Paris en 2000. Qu'ils ont construit beaucoup d'infrastructures sportives et que les élèves de Saint-Denis n'arrivent pas à avoir des piscines pour nager. Donc, savoir quand même que nos impôts, ils sont censés profiter à la population, sachant que les plus riches ne payent pas beaucoup d'impôts, il faudrait laisser, pas prendre les impôts, de la classe moyenne et des pauvres pour que ça garde un service public. Utile, quoi. Parce que là, c'est 5 milliards cramés, brûlés, etc. Il n'y a pas de retour sur investissement, ce qui est montré. Toutes les études économiques ont montré que les JO ne rapportaient pas d'argent, que ça coûte. C'est un peu l'évidence du monde, ça rapporte, en fait, une petite catégorie, toujours les mêmes, qui veulent bétonner encore rendre les Alpes comme un refuge climatique pour riches, quoi. Voilà, c'est ça leur ambition et ils sont dans le... Nous, on les appelle les champions du monde du déni climatique. Voilà, ils sont dans le déni vraiment le plus important parce que, moi ça fait 30 ans que j'habite ici, on voit bien que j'ai jamais vu de la neige neiger. Un mètre de neige qui part, il pleut jusqu'à 3000 mètres au mois de décembre. Voilà, il y a des choses qu'on n'avait jamais vues. On va en voir de plus en plus. C'est tout ce que nous disent en fait les rapports du GIEC. Mais bon, il y en a qui lisent l'avenir nous on lit l'avenir dans le rapport du GIEC, eux ils lisent l'avenir dans leur rapport comptable. Voilà, c'est ça le.
Et est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous de la lutte contre les JO?
Ah ben, demain, il y a une caravane qui part des JO, qui part du Grand Bornand, qui va jusqu'au CIO. Ce soir, il y a une manifestation à Briançon contre les Jeux Olympiques. Mais disons que là, tout est aussi un peu bloqué. Une des revendications qu'on fait, nous, c'est nos JO, le collectif, donc on est complètement contre, mais il y a beaucoup de gens qui revendique aussi le fait que c'est les Alpes qui doivent choisir. Donc on demande, le nouveau Front Populaire, vu qu'il y a des gens qui sont pour les JO, des gens qui sont contre, etc. Mais tout le monde a été d'accord pour nous demander un référendum. Alors que les Alpes votent et qu'on n'engage pas à 5 milliards. Car avoir aucun programme, ni de Muselier, ni de Wauquiez, ça a été évoqué de faire les Jeux Olympiques. Et voilà, c'est juste le lobby du ski. Le fait que le CIO n'avait plus compté sur le Japon pour organiser les Jeux Olympiques et n'ayant pas de pigeons, ils sont rabattus sur les Alpes. Mais ça n'a jamais été débattu. Il n'y a jamais eu de vote et nous, on revendique au moins... nous, on a confiance. Hein, et la Catalogne qui devait accueillir les Jeux Olympiques, ils ont voté. Il y a eu 65% contre. Voilà. Donc ce n'est même pas populaire. Voilà. Est vendu comme une fête populaire, mais c'est un grand renfort de propagande, etc. Voilà. Si on demande l'avis des gens, ce qu'on réclame, c'est-à-dire que les gens des Alpes décident, avec un débat, on a confiance, quoi. On a complètement confiance de gagner le référendum. Mais la France, qui était en concurrence avec la Suisse et la Suède, a été choisie parce que il n'y a pas de tradition démocratique ici. Donc la Suisse et la Suède allaient forcément demander l'avis à sa population. Oui. Donc voilà.
Et oui, nous sommes bien d'accord.
Vous pouvez aller sur le site nous-jo.fr. Il y a une pétition à signer pour référendum. On recherche aussi des dons pour financer les actions. Et on vous remercie, Radio Galère, de nous avoir, donné la parole.
Avec plaisir.
De toute façon, on ne lâchera pas, même si les JO sont signés. Nous, on demandera l'annulation des JO. Ça a déjà été fait en 76 et de toute façon, je pense que les JO n'auront pas lieu pour des raisons climatiques. Parce que un de nos slogans, c'est les JO 2030, ce sera les JO de la boue avec des services publics à genoux. Voilà.
C'est beau.
Voilà.
Et merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et tout de suite, une pause musicale. On va écouter le morceau Monjo Mini de Shadia Rodriguez.
Senza le mesh, 1, 2, 3, 4 conto il cash. Fanno gli spessi ma sono trash. Dopo che chiavo li chiamo flash. Non ho bisogno che paghi la cena, portami sull'altalena. Lasciamo la luce accesa, baby, non sono Maria Maddalena. Non sono una tipa all'antica, mi piace pure la tua tipa. Portale e porta un'amica, e poi che Dio ci benedica. Vengo da una via con le case rotte, ora voglio una doccia di banconote. Meglio che ci penso da sola, rotoliamo dentro le lenzuola. Senti il beat, senti il beat. Muoviti, muoviti, muoviti. Muovi la testa fino a che vomiti, vomiti. In giro mi chiamano la mangia uomini, 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 uomini. In giro mi chiamano la mangia uomini, 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 uomini. Droga, sex, money, flex. Zero tipo, zero ex. Zero pare, zero stress. Mangia uomini, uomini. Droga, sex, money, flex. Zero tipo, zero ex. Zero pare, zero stress. Mangia uomini, uomini. Shadia ne ha fatte di brutte cose, brutta roba, come cosa? Zitto e fumo e metti come cose, la mia pussy manda in overdose. Fanno la fila sui social, sì, per vedermi nella doccia. Tutta liscia come coggia, sì, fare piovere una boccia. Sono io l'uomo di casa, bro, questa cosa mi casa. Faccio una canna che è una pianta grassa, tu se mi cerchi prova a chiamare la NASA, yeah. Se animali da cortile, se hanno qualcosa da dire, li farò stringere le palle, come l'ormone femminile. Senti il beat, senti il beat. Muoviti, muoviti, muoviti. Muovi la testa fino a che vomiti, vomiti. In giro mi chiamano la mangia uomini, 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 uomini. In giro mi chiamano la mangia uomini, 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 uomini. Droga, sex, money, flex. Zero tipo, zero ex. Zero pare, zero stress. Mangia uomini, uomini. Droga, sex, money, flex. Zero tipo, zero ex. Zero pare, zero stress. Mangia uomini, uomini. Zero stress, mangia uomini, uomini. Droga, sex, money, flex. Zero tipo, zero ex. Zero pare, zero stress. Mangia uomini, uomini.
Les JO sont le reflet de cette vision du sport libéral qui exacerbe la compétition entre les nations. Mais si on s'intéresse plus précisément au foot, on remarque que les JO témoignent de ce processus de financiarisation croissant de cette industrie. En effet, la FIFA et l'UEFA trouvent leur intérêt dans cette croissance économique, mais ne cherchent pas du tout à la réguler. Le principal pôle de résistance semble s'incarner par les groupes de supporters, les ultras en particulier. Très stigmatisés dans les médias, leur discours reste alors inaudible et n'est représenté dans aucune instance. Cela pose des dilemmes de plus en plus difficiles lorsqu'on tend à entretenir une forme de conscience politique vis-à-vis du foot et qu'on désire défendre un autre modèle. Mais il existe tout de même des alternatives aux dérives du foot business. Le foot féminin, par exemple, qui est moins développé sur le plan économique, nous rapproche davantage des valeurs que l'on souhaite attribuer au foot et au sport en général. On constate également une vitalité du foot amateur, notamment au travers de la création de clubs militants qui s'inscrivent dans des luttes sociales. À Marseille, on a le Drama Queer Football Club, qui défend un foot populaire et transféministe. C'est également le cas avec le collectif Un Tournoi pour Gaza, initié par Urgence Palestine, qui organise des tournois de foot partout en France en soutien à Gaza. Ces tentatives sont assez marginales par rapport à l'ensemble du monde du foot, mais elles tendent à politiser ce sport en proposant des alternatives concrètes. Ces collectifs portent également un discours critique envers les évolutions du foot, en général. Selon Jérôme Latta, journaliste et critique sportif, auteur du livre « Ce que le foot est devenu » paru aux éditions Divergence, il y a une nécessité à changer les modes de gouvernance des clubs et des instances sportives en donnant une voix au public du foot, et ainsi imaginer des modes de gouvernance qui puissent les représenter au sein de leurs instances. C'est l'hypothèse portée par le club Centro Storico Lebowski, basé au cœur du quartier San Frediano à Florence. C'est le tout premier club italien géré entièrement par ses supporters. Son histoire commence dans les années 2000. Le foot italien est complètement débordé par ses ultras. Chaque week-end, des incidents éclatent au stade comme en dehors. En 2007, deux drames marquent l'Italie. Un policier est tué en Sicile lors d'affrontements entre les ultras de Catane et ceux de Palerme. En novembre, un supporter de la Lazio est abattu par la police lors d'affrontements avec les supporters de la Juventus de Turin. Suite à ces événements, le gouvernement italien prend des mesures strictes qui complexifient l'accès au stade pour les groupes ultras non affiliés à des clubs officiels. Ces restrictions sont trop contraignantes pour certains supporters de la Fiorentina, club historique de la ville de Florence. Certains décident alors de se trouver une autre équipe à soutenir et se rendent à un match de l'AC Lebowski, une équipe classée dernière au classement et qui encaisse défaite sur défaite. Suite à ce premier match, ce groupe ultra prend de l'ampleur et décide de se rendre à chacune des rencontres du club. Ils se font appeler les Drugati. Petit à petit, d'autres ultras de la Fiorentina les rejoignent, attirés par la possibilité de supporter sans règles, en toute autonomie. Les Drugati décident ensuite de reprendre le club et baptisent l'équipe Centro Storico Lebowski, en référence au centre-ville de Florence. Le club est totalement horizontal, il n'y a pas de président, mais des assemblées générales où chaque membre a une voix. Ils en comptabilisent environ 2000. Au-delà du sport, le club Centro Storico Lebowski a vocation à être un outil de lutte contre la gentrification et la touristification de Florence au sein du quartier de San Frediano. En 2012 notamment, la mairie de Florence cède un jardin au cœur d'un quartier à un fonds spéculatif pour y construire des appartes de luxe et un parking. Le club entre alors en résistance avec les habitants et habitantes du quartier contre le projet en organisant des manifs et en occupant le jardin menacé. Le jardin s'est vite transformé en terrain d'entraînement pour les jeunes du quartier. S'en est suivie la création d'une école de foot pour les jeunes, baptisée Francesco Bolo Orlando, du nom d'un antifasciste du quartier, décédé au cours de ces années-là. Le projet a été abandonné et le jardin est devenu une maison pour les jeunes du quartier. Ainsi, le Centro Storico Lebowski est un exemple parlant d'alternative au foot business, où le sport devient un moyen d'intensification d'une lutte de quartier, qui se révéla victorieuse.
On se rend donc compte aujourd'hui qu'il est très compliqué d'avoir encore confiance en des jeux de sport, des compétitions de sport mondiales. Le sport, oui, mais dépolitisé, ça perd tout son sens. On souhaiterait plutôt du sport populaire, authentique, qui conserve ses valeurs d'origine. Cependant, il existe de telles initiatives qui nous parlent et qui sont possibles, que ce soit localement à Marseille ou dans d'autres villes, même dans d'autres pays. Il faut aussi rappeler les possibilités que l'on a aujourd'hui pour boycotter les JO ou pour faire quoi que ce soit qui permette de ternir un peu l'image de ces Jeux mondiaux dont on n'a vraiment pas de quoi être fier. Parmi ces possibilités, on retrouve bon nombre d'associations qui ont été déjà mentionnées. On peut aussi mentionner le collectif Saccage à l'échelle nationale, qui regroupe un certain nombre de bénévoles qui se sont engagés pour être volontaires au JO et qui se portent finalement non volontaires au moment de le réaliser. On ne sait pas encore comment ça va se passer finalement, ces Jeux Olympiques, mais on espère que nos contre-pouvoirs de la rue nous rendront fiers, à défaut de nos pouvoirs publics.
Et c'est ainsi que s'achève notre émission Une heure sur Mars, consacrée cette semaine au JO. C'était Tatiana et Sonia. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour une prochaine émission. On vous laisse avec une dernière musique, après quoi la programmation reprendra son cours.
Je suis sur la route de Meta. Le quartier sous CR, ça change pas, non. L'île sur. Je suis sur la route de Meta.
Le quartier sous CR, ça change pas. Je n'ai que de l'amour pour ma quiche tâche. En Versace, en Médusa. Un peu de bonheur, je te montre que ça. Tu perds le sourire dans la tête. Plus qu'un ballot dans le que ça. En fin de showcase, j'encaisse. Je me lève tôt, je me couche tard. En studio, je fais que charbonner. Sans bosson, qu'on creuse l'écart. Je vois leur vice dans leur regard. J'avance, j'oublie le passé. Comme une lionne, je vais chasser. Comme si fac, j'ai la mentale. Je rappe la rue, ça vient d'en bas. Ça veut la carrière au ballon, à Balotelli. Ils se prennent pour des Pablo, mais ici c'est pas Medellin. Fais gaffe, mon pote, je sais que la vie ne tient qu'à un film. Bienvenue dans la jungle, c'est réel, non, c'est pas un film. Ils viendront tous m'acclamer, une fois que j'aurai percé. Chez moi, une fois que c'est cassé, on ne peut plus réparer. Je vais péter le classé, avec les sous d'assassin. Je ne peux rien effacer, j'ai toujours le cœur qui saigne.
Quand je tombe, je me relève, chaque jour je lutte. C'est pas tout beau, tout rose dans le sud. Tout comme l'OM, moi je vais droit au but. Frappe, Lucas, bam, j'ai mis le but. Quand je tombe, je me relève, chaque jour je lutte. C'est pas tout beau, tout rose dans le sud. Tout comme l'OM, moi je vais droit au but. Frappe, Lucas, bam, j'ai mis le but.